Il y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Et ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Assez, c'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros en CDJ B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza.
FPP 106.3 FM sur l'émission Langue de Fronde. Vous venez d'écouter la chanteuse militante kurde de Turquie, Aynur Dogan, avec le titre Keçek Kurdan. Alors aujourd'hui, on a deux invités, dont une qui est bien à l'heure et l'autre qui a eu un petit contretemps. Donc, Garachi, avec en studio, Kla.
Bonsoir.
Et Léa.
Salut.
Et moi-même, salut. Et en technique, Maïk et Céline. Alors aujourd'hui, nous voudrions vous parler de la situation au Kurdistan Nord, c'est-à-dire la partie turque du Kurdistan. Donc juste pour vous situer un peu, le Kurdistan, c'est pas un état, c'est une région géographique et culturelle qui est majoritairement peuplée par les Kurdes. Ça s'étend donc sur quatre pays, le sud-est de la Turquie, le nord-est de l'Irak, le nord-ouest de l'Iran et sur la Syrie, au nord-est principalement, sur la partie qui est appelée le Rojava. Avant, donc, du temps de l'Empire ottoman, le Kurdistan était constitué surtout de petits émirats. Et après la Première Guerre mondiale, suite au traité de Lausanne en 1923, sur les restes de l'Empire ottoman, donc, le Moyen-Orient a été divisé en plusieurs pays, sans tenir compte des droits des Kurdes. Et donc, enfin voilà, donc pour une petite situation géopolitique. On a dernièrement pas mal entendu parler du Kurdistan, mais c'était surtout la question donc, dans les médias du conflit armé qui a eu lieu à Kobané, donc qui est une région, une ville,
un canton
de Syrie, donc du Rojava, qui a été pris par Daesh, puis repris par les forces armées kurdes, donc les YPG ou YPJ. Mais on a beaucoup moins entendu parler du conflit et de la guerre que l'État turc mène envers son propre peuple kurde. Et voilà, et on profite de la présence de femmes qui reviennent du Kurdistan Nord pour en parler un peu plus.
Et donc du coup, Karachi, est-ce que tu pourrais peut-être introduire un peu cette délégation? Comment est-ce qu'elle s'est organisée, qu'elle s'est constituée? Vous étiez 7 à partir là-bas en mars. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, cette délégation s'est organisée en 3 jours, presque. Et s'est organisée en 3 jours, presque. Ça a été un sens au dernier moment. On n'était pas toutes qu'on se connaissait, mais c'était plutôt le QGA, qui est le mouvement de femmes libres en Kurdistan à Bakur. Et là, on voyait une invitation au mouvement des femmes libres ici en France, les Kurdes en France. Et du coup, comme on était des militantes, qu'on était intéressées pour la question kurde, on était des féministes, on était impliquées, on connaissait aussi un peu. On allait au Centre culturel kurde ici à Paris. Il y a aussi parce qu'en fait, on était 5 habités sur Paris et 2 habités sur la SAD. Et les 2 copines de la SAD, par exemple, elles étaient aussi dans les collectifs de solidarité avec le Kurdistan de la SAD. Il y a une des copines qui était dans Solidarité Fankobané aussi. Et voilà, pour diverses raisons, on s'est rencontrés toutes les jours avant de partir. Et voilà, et on est parti.
Et donc, vous êtes parti en mars, presque pendant une semaine, c'est ça?
Oui, c'est ça. Parce que en fait, le QGA, il avait fait l'invitation parce qu'il il allait avoir plusieurs manifestations pour le 8 mars en Kurdistan. Et du coup, il voulait qu'il y avait une délégation internationale qui participait dans les diverses mobilisations. Parce que là, en fait, c'était pas que le 8 mars, il y avait juste un manif, non? Ça a commencé depuis le 1er mars. Il y avait, ça partait de Silopi, en fait, que c'est là où il y a eu les 3 femmes assassinées en Zambie. Que en plus, bon, après on parlera un peu de ces 3 femmes parce que c'est un cas aussi assez particulier. Et voilà, mais ça partait de là-bas et ça allait dans d'autres villes et il y avait plusieurs manifs pendant une semaine. En fait.
Okay, donc vous avez voyagé dans plusieurs villes pendant toute cette semaine-là?
Oui. Okay. Mais au début, on était partis pour faire les manifestations pour le 8 mars, mais après, on est allé aussi, on a un peu éloigné.
Élargi.
Oui, c'est ça, élargi. Pardonnez pour ma française, c'est un peu. Et du coup, on a élargi les voyages, ou les objectifs de voyage, si on veut, parce qu'on avait un peu un objectif féministe de vouloir rencontrer les femmes là-bas et tout ça, mais il y a une guerre civile qui est en train de se passer, et du coup, on ne pouvait pas non plus juste rencontrer des femmes et aller à les manifs de 8 mars, même si c'est très lié, parce que les femmes ont un rôle imprescindible, mais on a eu un appel de qu'il y avait 10 règles qui venaient de s'ouvrir, du coup, on a changé le parcours plein de fois. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a accueilli là-bas? Donc, vous avez été suivi, accompagné pendant tout le long du voyage.
Oui, en fait, il y a plusieurs femmes qui nous ont accompagnées, mais il y a aussi Aïssé Gohan, ah, j'arrive pas à faire la prononciation non plus, Gohan, je crois, c'était la femme de la diplomatie du KGA qui nous a accompagnées pendant tout le parcours. Et elle était, en fait, on a eu une relation super proche parce que mais avec toutes les femmes, il y avait vraiment un envie de rencontrer en plus des Européens parce qu'elles se sentent très, très abandonnées aussi parce qu'il y a, on sait bien que l'Union européenne est en train de regarder d'un autre côté. Du coup, elles avaient trop envie de parler, de raconter de ce qui est en train de se passer parce que c'est très dur.
Et il y a d'autres. Je me demande s'il y a d'autres délégations internationales qui ont été là-bas ou pas, ces derniers mois.
Oui, il y a. Après que nous on est allés, il y a une autre délégation de Paris qui allait qui partait de Paris, plus quelques membres du Centre culturel kurde, des comme ça. Mais c'est vrai que dans le moment que nous on était là, il y a par exemple une délégation catalane qui s'est fait bloquer à l'aéroport à Istanbul et que parce qu'en fait c'était un député de la CUP, que c'est un des partis indépendantistes de Catalogne, et du coup il s'est fait bloquer dans l'aéroport. Il a passé même il était avec un autre militant féministe, ils se sont fait arrêter, ils sont passés même la nuit ou quelques heures en garde à vue, et ils sont renvoyés en Catalogne.
On peut peut-être reparler, juste pour recontextualiser un petit peu, donc les partis politiques qu'il y a kurdes et leur activité, enfin comment le contexte qu'il y a actuel, en fait, de quoi ça découle.
En fait, on pourrait dire qu'il y a des partis politique, ou moi j'ai un peu pour simplifier, des partis politiques les plus importants, les plus qui sont plus en train d'agir, qui sont les HDP, c'est un parti turc pro-kurde, et les DPV, que c'est en fait c'est le parti du Kurdistan, que c'est aussi très proche à les idées du HDP, mais c'est plutôt un parti. Voilà,
mais un parti turc aussi ou non?
C'est plutôt à l'âge.
Tu sais pas, c'est pas
trop. C'est kurde, mais je crois que c'est spécifique de Bakour, en fait. Ouais. Mais je suis pas super sûre de ça.
Et peut-être, tu parlais du KGA. Du KGA, je sais pas comment.
Oui, KGA.
KGA. Ça, c'est une des organisations politiques que vous avez rencontrées là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres organisations que vous avez rencontrées sur place
On a rencontré. On a rencontré plein d'organisations, mais en fait, les KGA, par exemple, c'est pas qu'une organisation, elle nous parlait comme si c'était le parapluie de toutes les organisations là-bas. Et du coup, à travers les KGA, on a eu plusieurs entretiens. Par exemple, on a allé voir Jinha, qui est une agence de presse non mixte. Il y a que des femmes, c'était super intéressant. On a rencontré des associations de la société civile, que c'était plutôt des associations qui faisaient de la cuilla de femmes qui ont subi des violences ou qui avaient des centres d'hébergement. On a aussi rencontré plusieurs plusieurs militants politiques qui sont au sein de l'HDP ou de DBP. Et aussi on a été dans un centre d'information qui était là, je ne sais pas si c'était que des femmes, mais je crois que c'était. Oui, ou il y avait que des femmes, en tout cas, quand on les a rencontrées. Mais. Oui.
Et est-ce que tu... Enfin, peut-être on peut attendre Louise et faire une petite pause maintenant, ou comme tu préfères, sinon on peut peut-être parler un peu de l'actualité de la région, si tu veux commencer de ça.
Oui, on peut faire
un point un peu géopolitique et de ce qui se passe concrètement
si
au Kurdistan.
Même si je ne suis pas une experte, mais oui. En fait, on peut dire qu'il y a plusieurs facteurs, parce que avant de l'été, en mai, avant de mai, il y avait un processus de paix ou un feuille de route qui était parti par Ocalan. Et du coup, Ocalan qui avait dirigé un feuille de route qui allait vers la paix. En fait, il y avait des négociations de paix, une intention d'établir la paix. Il semblait que ça marchait, en plus la société civile, elle croyait aussi, les partis aussi. Mais à un moment donné, il y a les HDP, en fait, qui a gagné les élections en juin, qui a fait un 3%, du coup, ça fait qu'il a coupé la majorité absolue d'Erdogan. Il y a aussi l'attentat de Surut, qui a été un jugé et a fait 33 morts d'une délégation d'étudiants qui sont allés pour la reconstruction de Kobané. Et en fait, Erdogan a utilisé cet attentat pour après dire que pour avoir la carte blanche, on dit, de l'Union européenne pour commencer à faire des opérations contre les terroristes. Les terroristes que on ne sait pas trop qui sont, mais on sait bien que dans la tête d'Erdogan, il n'y a que les PKK qui sont des terroristes. Et le PKK,
juste pour rappeler, donc, c'est le parti
des travailleurs kurdes.
Oui, parti des travailleurs kurdes qui est sur la liste des partis terroristes en Turquie et au niveau international d'ailleurs.
Pardon. Oui, vous faites des précisions parce que des fois je parle comme si c'était tout évident, mais c'est clair. Et du coup, voilà,
Donc là, on était au mois de juillet.
Oui,
on était au mois de juillet. Erdogan a carte blanche suite aux attentats.
C'est ça. Et du coup, il a obtenu la carte blanche de l'Union européenne pour commencer les opérations contre le terrorisme. Après, on a pu voir que vraiment il visait plutôt le peuple kurde que les terroristes de Daesh. Si tu veux. Et il y a aussi tout à partir de la libération de Kobané, qui s'est passé l'été dernier, dans toute la partie syrienne. En fait, ils ont réussi à unir les trois cantons et du coup ils ont pris dans Rojava, les Kurdes, ils sont arrivés à prendre pas mal de positions dans la frontière et du coup ça a coupé les liens d'Erdogan avec Daesh, parce qu'il y a plein de recherches qui montrent qu'il y a pas mal d'alliances. Et du coup, tout ça, dans tout ce contexte, l'État turc a commencé à lancer la guerre contre le peuple kurde.
Ok. Est-ce que ça vous va de faire une petite pause musicale et on revient après? Vous êtes toujours sur 106.3 FM FPP avec Langue de Fronde.
Why lemonade? 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 Lemonade, lemonade, lemonade. Wala zero, the nabad le, khud na le, the bim hay wa khlemen, hay wa khlemen, hay wa khlemen. Wala zero, bar khud na kubane, bikem al basta ser zwane, bikarinem nawa hamu alama insane. Ah, lemonade, why lemonade, why lemonade, why lemonade, why lemonade, 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 ساکت چون خورده کردانه به سینگا خوبونه مرتاله بری تانگو توپانه آخ وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدائیم ولی دائیم از دینا خود دمه کلانه کبانه حسر چاوی دائی کانه دیر و قرنی کت یه نوازا روزه چوکالو پیرانه وای لمنیم حسر چاوی زارو کامه کیچم افراد کلانه کبانه دهرکیم آخ لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی لمنی لدائیم وله دایی از ایر و رابه به چلو چار زمانی بخوینه بده پسنی بر خدا ناصر زوریم ده تدا فرمادار پیمانه بیاز در حوالا مورا خودی رو کارش دانیانه آخ لمنی لی لمنی وای لمنی لو لمنی وای لمنی لدائیم وله دایی رو دسا ایر و دسا در دورا کبانی فرمانه فرمانه امرتانه دیرو داره ظلم خود اجینه حچان ملی کبانه دل پیش دکینه آخ وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم دوزه رابه دناوا دلی خوب نالم ازه رابه تبورا خوب هجینه ده سر منا گریمش ده نور بفرکینم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم دیرو دنگ روشن آراد به روشلات کردستانی خبرد ده نوادل کبانی ده دیسا گوره نوشان تیدا سر گوونده ده جینه در دورا کبانی بخملا خود نقشینه آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو آرینه جوانه پک روانا دوزه ده به پرچکی بو بازیلانیم خبرد ده نوادل داگر کری حچال ملیکو بانیم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو خمنو خیال گل هاتا خود پیچه بشنو بالا بازم دقیری ند به افدر نگل یه زیلانه نه میدانا چارچرای انرژی حلب چهیه دوه کبانا رنگی نه بویه سمبولا
شانسون دون پتتر گاراجی تو بنو پارلی؟
Oui, en fait, elle, c'est un combattant de Kobané qui est tombé martyr et qui est décédé l'été dernier.
Au front, du coup.
Ouais. Voilà.
Donc, vous êtes toujours sur Langue de Fronde, sur la radio FPP 106.3 FM. Louise vient de nous rejoindre. On est toutes contentes. Et bonjour, voilà. Donc, on vient donc de découvrir ou, enfin, un peu les raisons qui ont mené à la rupture du cessez-le-feu entre donc, la Turquie, surtout représentée par l'État, et Erdogan, le président Erdogan, face au Kurdistan kurde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, nous détailler un peu plus quelles sont, enfin, en quoi consistent en fait toutes les mesures de répression et de guerre que, enfin, c'est pas des mesures, mais en tout cas, enfin, en quoi l'État turc en fait oppresse et opprime le peuple kurde en Turquie?
Oui, en fait, par exemple, dès qu'il y a des petits détails, que dès qu'on est arrivé, il y avait dans l'aéroport, il y avait des avions d'essais qui partaient tout le temps. Il y avait des contrôles de la police, de checkpoints, souvent, même les... Quand on essayait de faire des réunions, il y avait tout le temps des avions qui passaient et qui interféraient dans pouvoir échanger avec l'autre. Bon, il y avait plusieurs petits détails qui attaquent la vie quotidienne. Mais après, il y a des pratiques super brutales aussi, surtout dans les villes qui ont été, parce que plusieurs villes ont été assiégées depuis qu'a commencé la sale guerre de, de l'état turc. Avant, par exemple, j'ai oublié aussi qu'une autre de les raisons par laquelle a commencé la sale guerre, c'est parce que plusieurs villes ont déclaré leur autonomie. Et du coup, ça a fait que cette plusieurs villes qui ont déclaré l'autonomie, il y avait l'état, les soldats turcs qui venaient, ils mettaient en état de siège, et commençaient à attaquer les civils, à bombarder par air et tout ça. Et par exemple, nous, c'est ça que je disais avant, que comme la situation c'est tellement forte, on a appris quand on était dans les voyages que la ville de Djirre, qui est une ville qui fait frontière avec la Syrie, l'Irak et la Turquie, elle a été ouverte et du coup on s'est dit bon, on va voir ce qui s'est passé parce que là-bas, elle aussi, c'est ça qu'elle nous disait, on veut que vous voyez avec vos propres yeux qu'est-ce que l'État turc a fait. Et en fait, on est allé, pardon, on est allé à Djirre, on a été bloqué pendant 3 heures aussi parce qu'il ne comprenait pas trop pourquoi on voulait rentrer. En plus, il y a aussi
par les
soldats turcs. Et en fait, ils n'ont aucun intérêt de qu'il y a des Européens qui vont voir leur catastrophe. Et du coup, finalement, ils ne sont pas trouvé beaucoup de motifs pour nous bloquer. On n'a jamais trop compris pourquoi ils nous ont fait rentrer, mais on a pu rentrer. Et il y avait toutes les familles, en fait, qui venaient aussi de plein de familles, qui venaient de rentrer dans la ville. Du coup, on a vu comme tout le monde il rencontrait, par exemple, tout le monde, non, parce qu'il y a pas mal de gens qui restaient dans la ville aussi, mais que des gens qui venaient de voir leur maison qui était tombée.
Vous pouvez juste nous bien nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Djirre et quand, juste pour.
En fait, la ville, le siège a commencé en décembre, je crois. Et du coup, la ville a été assiégée pendant 3 mois, parce que la ville avait déclaré son autonomie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les soldats bombardaient continuellement la ville, qu'il y a des civils même qui se réfugiaient, par exemple, dans des sous-sols de leur maison. Et ils ne pouvaient même pas sortir. Il y a plusieurs sous-sols, mais nous, on a visité un des sous-sols où il y a des personnes qui ont passé des semaines là-bas, 70 personnes, 138, j'ai un bordel avec les chiffres aussi, 138 personnes ont passé des semaines là-bas et après, à la fin, on était brûlés vifs, en fait. Et voilà, il y a pas mal d'histoires comme ça. Il y avait une autre femme qui nous racontait aussi de comme il nous a montré un endroit où une femme était tuée et l'ont déhabillé, on montrait tout son cadavre mort et dénudé, l'ont baladé partout de la ville. Et en plus, après, il met les soldats, il met les photos dans les réseaux sociaux. Il y a un truc aussi là.
D'intimidation un peu des femmes aussi, quoi.
Mm-hmm. Oui. Et voilà, c'est un peu dur, je crois, pour nous aussi quand on arrive à la partie de Djirre, parce que vraiment, des fois, j'ai pas de mots. C'est plutôt une sensation qui t'abarque de c'est horrible, parce qu'on voyait tous les bâtiments détruits, on voyait la gens qui étaient en train de pleurer, de voir sa maison pour la première fois, qui avait du coup, c'était terrible. Même des fois, j'ai dit, il y avait plein de tags aussi que les soldats laissaient en disant où sont les fils de Ocalan, on vient les chercher, où sont celles qui portent les habits traditionnels kurdes.
Est-ce que Louise, tu veux ajouter quelque chose sur peut-être aussi sur l'aspect ultra militaire en fait du séjour dans lequel vous avez été, de la militarisation concrète de la vie quotidienne là-bas.
Eh ben, elle s'est exprimée à travers, nous directement, comment on a été impacté. On a eu une quinzaine de contrôles, en tout et pour tout, soit par les forces de l'armée régulière, soit par les forces policières.
En 7 jours, c'est ça?
Voilà, en 7 jours. Ça s'est aussi caractérisé, la militarisation, par des interdictions de manifestation. Là, on a un état d'urgence qui est un niveau au-delà de l'état d'urgence actuellement en France, puisque de toute façon, toutes ces zones-là sont des zones de grande tension, avec des pôles plus chauds sur les quartiers qui sont assiégés, comme ça a été le cas pour Djizré, comme ça a été le cas pour Sourd, donc dans la capitale Diyarbakır, ou Nusaybin. Donc il y a des pôles où la stratégie de l'État turc, c'est des attaques spécifiques sur les quartiers les plus rebelles, en fait. Dans la guerre contre la sale guerre, c'est pas autre chose qu'une guerre contre-révolutionnaire. Tout l'espoir qui a été soulevé par la lutte du Rojava, par les élections. Alors qu'en même temps, t'as Erdogan qui se radicalise, l'AKP qui vraiment véritablement se radicalise dans ses politiques impérialistes, dans le pouvoir, hein, dans la région. Eh ben, il y a une réaction terrible. Et la terreur de l'État, nous, on l'a constaté à Djizré, on l'a constaté aussi dans toutes les villes. On a visité Nusaybin qui, deux semaines après, a été assiégée. Donc Nusaybin, c'est pareil, des villes qui sont vers la frontière syrienne, dans le sud. Et on a vu s'élever des barricades dans lesquelles participaient beaucoup, tous les habitants des quartiers. Et puis on a vu surtout la présence partout des tanks, des forces armées systématiquement présentes à tous les abords et qui contrôlent les autres, qui font des arrestations. Et pour revenir à Djizré, on a rencontré plusieurs personnes donc, qui nous ont parlé aussi de l'organisation de ces massacres. C'est des massacres vraiment terribles. Les personnes nous disaient, là, ici, c'est vraiment pire que Kobané. C'est pire que Rojava, parce que c'est les civils qui sont tués. On n'est plus dans un affrontement armé entre des guérillas ou autres. Mais c'est des civils qui sont assassinés. Et ce qui nous témoignait, c'est l'organisation et le côté prémédité de ces massacres-là. Puisque peu de temps avant le siège, l'État turc avait demandé à tous ses fonctionnaires. L'administration, les fonctionnaires sont turcs. Hein, enseignants, dans les hôpitaux, c'est énormément de personnes turques. Et donc il y a eu le mot qui a été passé de « vous quittez la ville, vous partez par tous les moyens ». Les personnes qui ne sont pas parties ont été destituées, enfin ont eu des représailles, mais vous quittez la ville. Et du coup, les gens se sont retrouvés sans les services publics ordinaires, sans fonctionnement. Et puis il y a eu les massacres. Il y a eu les massacres et... Le siège devait être levé 2 semaines avant. En fait, ils l'ont retardé, la levée du siège. Pour quelle raison? En fait, les militaires qui occupaient ces 3 quartiers, puisque c'est 3 quartiers dans le Djizré qui ont été vraiment assiégés, qui ont été bouclés, blocus, plus aucun ravitaillement, plus d'électricité, plus rien. Et dans ces 3 quartiers-là où l'armée était présente, ils ont fait un véritable ménage. 3 semaines pendant lesquelles ils ont fait un ménage. C'est-à-dire, c'est terrible. Hein. C'est-à-dire, les corps sont déplacés, les corps ont été jetés dans le Tibre. Donc le fleuve qui est près de Djizré. Et les corps ont été aussi éparpillés dans de nombreux hôpitaux. Une forme d'humiliation en plus pour les familles qui doivent faire des trajets sans queue ni tête entre les villes pour la reconnaissance. En plus des corps qui sont marqués par la violence, marqués par les incendies. Enfin, c'est des violences vraiment terribles de cette terreur qu'on a constatée.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de la manière dont les femmes sont impactées spécifiquement par cette guerre-là? Parce que vous en parlez dans votre rapport et on trouvait ça intéressant de l'aborder aussi, comment les femmes sont des cibles spécifiques de cette sale guerre-là.
Oui, mais en fait, nous et elles aussi, nous sommes tout le temps voulu transmettre les messages de... que elles sont victimes de cette sale guerre, mais elles ne veulent pas non plus être victimes, c'est justement parce qu'elles ont un rôle très important dans tout le mouvement et dans toute la lutte du Kurdistan. Mais en même temps, il y a... Et justement pour ça, elles subissent des violences spécifiques, aussi comme résistance et comme femme, parce que justement cette pratique qu'on parlait avant de dénouer le corps et tout ça, c'est justement pour toujours attaquer leur honneur. Même à Tirée, il y avait une femme qui nous disait que les soldats sont rentrés dans sa maison, ont coupé la natte, ont rasé la tête d'une femme et ont mis la natte dans la porte de la maison. C'est toujours un peu en lien avec l'honneur.
Les pratiques d'humiliation.
Oui, c'est ça. Et voilà, même. Cette pratique qu'on a parlé aussi avant de dénouer le corps et tout ça, elles nous ont dit que c'est super étendu. Même il y a eu le cas de Kim Bam, qui ça a été un cas très, très connu aussi, parce que c'était un militant de GPG, qui pareil, elle a été assassinée, son corps a été baladé pendant 3 jours dans toute la ville pour montrer, mais voilà, on l'a tué, en plus on l'a dénoué, on montre son corps. Et aussi, ça, on parle les attaques plus dures, les plus, mais il y a aussi on essaie d'interdire tout type de mobilisation des femmes. On a vu quand on allait dans les manifs, il y a quelques manifs qui ont été interdits, comme Louis le disait avant, les manifs pour le 8 mars. Et par exemple, on a allé à Kiziltepe, on a voulu participer dans la manif de Kiziltepe. Là-bas, par exemple, ils ont coupé l'électricité. On voyait qu'autour de la place où il y avait les rassemblements, les prises de parole et tout ça, il y avait des snipers qui pointaient la place. Il y avait des contrôles pour rentrer dans la place. On a appris aussi qu'il y avait plusieurs contrôles dans toute la ville. Du coup, ça faisait que tout d'un coup, parce qu'ils ont commencé à lancer les rumeurs de qu'il pourrait avoir un attentat. Du coup, il y a toute une sorte de vouloir mettre la paix à la population. Il y a des femmes qui, justement, n'ont pas venu parce qu'elles ne veulent pas se faire contrôler, parce que la paix aussi, toute la confusion qui veulent créer, fait aussi que la jeune a peur. Voilà.
Et il y a eu. Ouais, ah, ce ouais, que je peux rajouter, ouais. Donc il y a ça se traduit par une terreur sur les corps des femmes, par aussi des féminicides, puisqu'il y a eu 3 femmes qui ont été assassinées à Silopi, qui est une ville donc du Bakour. 3 femmes qui ont été assassinées le 6 janvier 2016, à savoir 3 ans et 3 jours après les assassinats des 3 femmes à Paris. C'est pas sans lire, et on le sait, assassinées à leur domicile d'une balle dans la tête. Il y a une violence spécifique contre les femmes au Kurdistan, mais dans tout le reste de la Turquie. À savoir, en ce moment, il y a une offensive très forte contre tous les révolutionnaires. Et depuis donc le changement, on va dire, la radicalisation, on va dire, d'AKP, si on peut appeler ça comme ça, vraiment la terreur d'État qui se répand sur la Turquie, il y a des révolutionnaires qui ont été assassinés, que des femmes. Donc il y a eu 7 femmes révolutionnaires qui ont été assassinées depuis un an. Et pareil, dans le Kurdistan, il y a ces politiques d'assassinat. Voilà, on vient à ton domicile, on te tue. C'est une violence qui n'est pas un hasard, bien au contraire, qui est organisée et qui est en réponse au fait que les femmes, elles sont véritablement le moteur de la libération. Et si processus révolutionnaire il y a, ce qu'on a pu constater, c'est avant tout menée par les femmes, et c'est avant tout les femmes aussi qui en bénéficient, clairement. Cette répression, elle se fait aussi dans les arrestations. Il y a eu des milliers d'arrestations. Et parmi ces personnes arrêtées, énormément, énormément de femmes. Des femmes aussi importantes, arrêtées en tant que résistantes. Les femmes qu'on a rencontrées, il y en a une qui a été condamnée à 6 ans de prison, la commère de Nusaybin, et l'autre femme de Kiziltepe qui nous avait accueillis, qui est elle aussi mère, elle aussi a été arrêtée. Le Keja, donc le centre des femmes qu'on a été pendant plusieurs jours, a lui été perquisitionné, d'autres, des militantes ont été arrêtées. On a une violence spécifique. Et ce que disait Garadi tout à l'heure, il y a aussi la volonté de l'État turc de toucher les femmes en tant que mères. Il y a eu des il y a eu de nombreux assassinats
mère d'enfants. Dans le sens
en tant que
mère, M E accent mère, grave R E.
Voilà. Pas en tant que mère
M I R E
au niveau pouvoir municipal. Mais en tant que mère, dont on l'a vu, hein, il y a les assassinats de d'enfants en très bas âge ou de jeunes adolescents, c'est perçu par les femmes qu'on a rencontrées comme une manière de les atteindre au cœur, dans leurs plus profondes entrailles.
Oui, elle disait en fait la phrase qu'elle nous a dit, c'était « Quand elle met le feu sur notre enfant, c'est sur notre cœur de mère qu'elle met le feu aussi. »
Peut-être avant de continuer à parler justement plus longuement des résistances propres aux femmes dans, au Kurdistan, on va faire une petite pause avec Aynur Doğan qu'on a déjà entendue au tout début et qu'on retrouve maintenant. Aujourd'hui, une émission donc sur le Kurdistan, du côté turc et les résistances des femmes là-bas, avec toujours Louise. Garatsi vient de partir et Louise est là. Est-ce que tu veux continuer à nous parler des résistances de ces femmes? Du coup, tu nous as plutôt parlé de la répression qu'elles subissent.
Oui, oui, tout à fait. Bah, leur résistance, elle se caractérise en amour, hein, c'est exemplaire. Parce qu'en fait, comme elles sont des cibles spécifiques, elles... de la terreur de l'État, leur résistance, elle aussi, elle est spécifique. Et telle qu'elles nous l'ont décrite, elle s'inscrit vraiment sous le signe de l'autodéfense. C'est l'autodéfense qui est à la base de toute leur résistance, mais qui est aussi à la base de leur place spécifique dans le mouvement, en tant que vraiment moteur de cette libération de tout un peuple. Hein. On l'a vu dans le maintien des manifestations, coûte que coûte. On est en plein état de guerre. Il y a des dizaines de manifestations pour le 8 mars qui sont organisées. Le 8 mars, c'est partout dans la ville. Enfin, c'est incroyable. Elles font des tournées partout, des porte-à-porte partout. On est en plein état de guerre. Enfin, ça,
Elles appellent des délégations, comme vous.
Enfin, elles appellent des délégations. Ça, c'est une résistance, déjà. Elles nous ont fait un accueil magnifique. Ça montre vraiment leur détermination. Leur résistance, elle s'est faite à plusieurs niveaux, au niveau de la société civile, au niveau de la riposte armée et de la riposte physique et militaire. Je vais en parler un petit peu plus. Après l'assassinat d'Ekinvan, dont on parlait tout à l'heure, qui a été dénudée, il y a eu plusieurs femmes qui ont été dénudées, et quand il y a eu le 10 août cette violence, cette exaction sur cette militante, il y a beaucoup de femmes qui se sont vraiment révoltées. Et à la suite de ça, notamment, il y a des corps de femmes au sein même des unités d'autodéfense urbaines qui étaient déjà un peu en action dans certaines villes, les quartiers les plus rebelles, hein, les plus résistants. Il y a certains bataillons qui se sont créés. Même modèle que les YPG, donc la non-mixité, un savoir partagé entre femmes, une formation politique, voilà, toutes ces choses qui les tiennent, les femmes, et qui en font des combattantes aussi exemplaires. Et donc, elles se constituent dans les villes et elles mènent le combat On a vu d'ailleurs à Nusaybin, puisqu'il y avait des grandes barricades qui étaient levées, hein, la nuit, les femmes, les femmes très âgées aussi, qui viennent, qui sortent les pavés et qui les cimentent pour ériger de grands murs, des grands voiles qui sont placés au-dessus pour protéger des snipers. Et parmi ces grands voiles, il y a des grands voiles violets, voilà, couleur des femmes et de leur lutte, qui sont dressés. Il y a vraiment une volonté de ne pas se laisser réduire, cette volonté très ferme et très déterminée. Il y en a une qui disait, qu'on rencontrait, qui nous disait, voilà, ils veulent toucher nos corps, ils veulent nous mettre à terre, mais notre idéologie, elle restera coûte que coûte. Et cette idéologie qui fait qu'elles mènent leur combat à la fois contre le patriarcat, le système voilà, qui organise la domination des hommes sur les femmes, qu'elles mènent le combat contre l'État-nation, qui pour elles est une forme de prolongation du patriarcat, parce que c'est l'accaparement de l'exercice de la violence, c'est l'accaparement des richesses. Elles ont aussi leur combat contre le capitalisme, qui pour elles est aussi une prolongation du pouvoir des hommes sur les femmes, parce que c'est l'accaparement des richesses. C'est tout à ce titre-là qu'elles mènent ces différents fronts, ces différentes luttes contre ces systèmes de domination, et qui en font des femmes révolutionnaires exemplaires.
Pardon, tu nous as dit concrètement, en fait, que, enfin, tu t'écrivais que ces femmes se sont constituées, du coup, en unité d'autodéfense, c'est ça ? Donc, concrètement, elles se sont auto-organisées pour résister. Ça se présente comment, en fait, ces unités d'autodéfense ?
Donc, c'est des unités clandestines qui du coup, sont présentes dans les villes et en fait, ripostent. À Nusaybin, la ville donc, qui a été assiégée après notre départ, il y a une riposte très importante. Et l'État turc a été vraiment mis en déroute. Il y a par ailleurs aussi des attaques contre les commissariats et tous les bâtiments militaires. Si bien qu'il y a énormément de défections dans l'armée. Hein. Faut avoir en tête. Il y a le fait que c'est une résistance populaire large où laquelle les femmes sont vraiment très impliquées. Eh ben, il y a des défections militaires et policières en nombre.
Un petit peu comme au Candil, il y a une partie non mixte, une partie mixte, ou comment ça s'organise
Elles s'organisent en bataillon. Après, elles ont, je pense qu'elles mènent dans le siège, elles combattent ensemble. Il faut savoir quand même que beaucoup des femmes qui sont dans les unités de défense, c'est des femmes de la guérilla. Ça, c'est une information qui est récente. Il faut quand même la partager. Il y a ce mouvement spontané où beaucoup de jeunes, notamment de la jeunesse et des jeunes femmes qui y ont participé, mais les armes, enfin, où est-ce qu'on les trouve les armes ? Bon, les armes, l'expérience, c'est beaucoup des personnes de la guérilla qui sont descendues dans le bas-cours, et notamment des femmes.
La guérilla, tu veux dire le YPJ ?
Alors, non. Il y avait des femmes des YPJ, mais des femmes du Candil.
D'accord.
Qui sont dans les montagnes, en fait.
Okay.
Et qui sont sous la pression de l'État turc, puisqu'il y a systématiquement des bombardements sur les montagnes. Donc, c'est la partie irakienne. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que, bon, leur résistance, voilà, société civile, leur résistance, elle se fait à tous les niveaux. On le voit à Djizré, les femmes, elles sont les premières à vider les maisons, à brûler toutes les rations militaires, parce que c'est violent, il y a encore toutes les traces de l'armée turque qui est encore présente dans les murs. Donc, à faire de grands tas, à mettre le feu à toutes les rations, on n'y touche pas. C'est elle aussi qui, au sein du mouvement, continue la lutte. La lutte contre la violence contre les femmes, elle s'arrête pas. C'est pas parce qu'en ce moment, il y a cette sale guerre qui est menée qu'on arrête ça. Donc, elle continue à s'organiser. Il y a énormément de centres qui ouvrent, des centres d'accueil pour les femmes, où il y a un accueil spécifique par les femmes, pour les femmes, avec cette méthode-là qui est claire, qui est la méthode de l'autodéfense, à savoir, en tant que femme, tu es victime, tu es violentée, c'est toutes les femmes qui sont concernées, et nous, on va faire bloc autour de toi, autour de ce que tu veux comme réparation. Si tu veux que l'homme soit exclu, si tu veux que son salaire te soit reversé directement, si tu veux, voilà, toutes ces possibilités-là. Et les femmes, elles font bloc. Si bien que les femmes violentées, elles s'adressent plus à l'État, parce que l'État est présent et il peut y avoir des services d'accueil pour les femmes qui sont dirigés par l'État. Non, elles s'adressent aux organisations de femmes, qui sont les organisations de femmes du mouvement autour du HDP et du PKK.
Et est-ce que, du coup, donc, ces femmes qui sont en guerre, par ailleurs, il se trouve qu'il y a aussi une organisation assez spécifique des femmes, tu parlais tout à l'heure de Comer. Est-ce que tu aurais envie de nous parler de ces organisations-là aussi, qui ne sont pas forcément des organisations de guérilla, mais aussi de politique
La force des femmes dans le mouvement, elle date pas d'hier. C'est tout un processus. Les premiers bataillons de femmes dans le Kurdistan, c'est pas des bataillons du PKK, c'est des bataillons de forces révolutionnaires, j'ai plus le nom en tête, dans les années 70, mais dans les années 80, 90, et notamment la rentrée dans la guérilla. Le PKK constitue une guérilla dans les années 80. Dans les années 90, il y a ces bataillons de femmes. Et ces bataillons de femmes, ils vont donner beaucoup de force à toutes ces femmes et qui vont aussi s'étendre, se résonner dans tout le mouvement aussi civil. Donc les femmes parce qu'elles les femmes vont prendre de plus en plus de place et vont vouloir aussi s'imposer. Elles ont gagné la parité, donc ça veut dire systématiquement un homme, une femme sur les tâches politiques. Il faut avoir en tête que les maires là-bas, c'est pas les maires ici, hein. Qu'on soit clair. Il y a des formes d'autogestion politique qui sont à l'œuvre et elles ont un pouvoir qui n'est pas du tout le même qu'ici, qu'on l'ait bien en tête. Donc, ce n'est pas la même parité qui est défendue ici par les politiciens que la parité qui est défendue là-bas. Et donc, les femmes, elles ont continué leur rapport de force. Dans les années 90, années 2000, elles se sont imposées. Et aussi, mais parce qu'elles étaient très présentes dans le mouvement, elles participaient pas, elles n'étaient pas une force extérieure, et ben elles ont pu gagner. À des moments, elles ont dit, si vous ne nous prenez pas en compte, on se retire. Et il y a eu des congrès où toutes les femmes sont parties d'un même bloc. Elles se sont montrées très unies et c'est ça qui les a fait avancer et qui fait que maintenant, à l'entrée de la mairie de Kiziltepe, il y a une affiche avec des petites moustaches qui dit « Les hommes violents sont interdits dans ce lieu ». Voilà, on arrive là. Les violences sont dénoncées, il n'y a pas d'impunité. Et ce qui était intéressant, c'est ce que disaient les femmes des centres de recherche, qui sont autonomes de l'État, qui disaient « Nous, on voit que les violences contre les femmes, elles reculent, les féminicides reculent ». Du fait de ces mouvements. Alors que dans toute la Turquie, il faut savoir, les violences contre les femmes explosent.
Est-ce que, Louise, tu pourrais peut-être... tout à l'heure, tu parlais donc de la participation des YPG et YPJ dans les résistances sur le sol du Bakour. Est-ce que tu peux... peut-être préciser un peu les liens qui existent entre les résistances des femmes sur le Kurdistan Nord avec le Rojava. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, sachant qu'on n'a pas énormément de temps?
Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que dans toutes les manifestations, les principaux slogans, c'est « Vive la résistance de Kobané, vive la résistance de Jizre ». C'est « Vive la résistance des femmes qui ont... » et des YPG. C'est « Vive la résistance des femmes qui s'organisent et qui prennent les armes et qui combattent ». Qui combattent pas seulement pour faire reculer, mais qui combattent aussi pour au nom de la lutte des femmes, en fait, au nom d'un idéal qui va bien au-delà. Les femmes des il y a beaucoup de femmes qui sont parties dans les YPG, donc des femmes du Bakour. Et là, puisque la situation est une tension sociale moindre avec la libération de Kobané notamment, il y a beaucoup de femmes qui sont revenues dans le Bakour et qui ont participé à l'autodéfense des villes. Ces déplacements, c'était beaucoup des femmes des villes du sud, proches de la frontière syrienne. Donc il y a vraiment eu des allers-retours entre des résistantes en fonction des offensives qu'il fallait combattre. Et donc elles ont... C'est toute cette expérience-là qui aussi les a rendues extrêmement fortes. Hein. Nusaybin, l'armée est en déroute. Hein. L'armée, la police est en déroute. Et donc, dans toutes les manifs, voilà, c'est vraiment vive cette résistance-là, vive cette résistance-là.
Eh bien, merci beaucoup. Je pense que, malheureusement, il est bientôt l'heure et on va faire un petit agenda.
Je pense que tu as fini, Louise, aussi avec des beaux mots. Vive cette résistance-là, vive cette résistance-là. C'est pour ça qu'on vous a invité ce soir. C'était pour se faire l'écho de ce qui se passe là-bas.
Eh bien, merci à vous. C'est très important pour nous de diffuser leurs messages, très important de diffuser leurs combats et aussi leurs idées politiques. C'est vraiment, ça nous renforce tous et toutes, enfin toutes.
Alors, en quelques mots, un petit agenda. Je voudrais laisser la parole à Théo, Clarisse, déjà, qui ont un événement à vous annoncer de toute importance à Saint-Denis au mois de juin. Théo?
Ça sera dans le week-end du 10 juin, 11 juin, 12 juin au Centre social Latiquet. Un petit groupe de footballeuses organise un week-end autour d'un projet de menuiserie non mixte, donc entre femmes, en Ariège dans les Pyrénées. Et donc, ça sera un week-end. Donc, vous trouverez toutes les informations à la fois sur la page du Centre social Latieke, mais aussi sur notre blog, puisqu'on les mettra dès que la fiche sera faite. Il y aura des ateliers de foot, de boxe, d'initiation à la boxe, tout ça pour les filles. Il y aura du double dutch, donc des cordes à sauter dans tous les sens, un atelier de menuiserie, un atelier de mécanique.
Un atelier vélo.
Et puis aussi des concerts le vendredi soir. Enfin, plein de choses autour à la fois. On fait des choses avec nos mains et on bouge aussi quand on a envie de bouger ensemble entre meufs.
Et le mot de la fin, bon, l'agenda est très chargé, je pense qu'on le mettra entièrement sur le blog cette fois-ci. Et puis peut-être juste deux dates à retenir, l'appel au blocus et à la manifestation contre la loi travail et les violences policières jeudi 12 mai, avec un appel à bloquer concrètement les lycées, puis à se retrouver en tête de manif à 14h à Denfert-Rochereau à Paris, en direction de l'Assemblée nationale. Et samedi 14 mai à 14h, l'AG non mixte sur les femmes et le travail à la Bourse de travail de Paris. C'est tout, je crois, pour ce soir.
Avec aussi tout un tas d'actions, jeudi. Je pense que si vous avez envie de participer à diverses actions, renseignez-vous sur les différents sites d'Hémosphère ou autres. Il va se passer des choses. Et voilà, on va laisser la place à l'émission Écho de Palestine qui prend la suite. Et puis avec une musique de Koma Seyd Newal qui s'appelle Vaere Hiro Yepeji.
Et nous, on se retrouve dans un mois. Merci. Au revoir.